Et bonjour, salut, bienvenue sur un dessin podcast. Donc, première question avant de commencer quoi que ce soit. Bon, déjà l'image, voilà, comme je suis dans un autre lieu, c'est pas le même éclairage, hein, comme vous pouvez le voir. Et surtout, est-ce que vous m'entendez? C'est la première question. Ouais, bonjour, bonjour à tout le monde. Anita, JDR Pratique, Caracol. Première question, ouais, c'est si vous m'entendez, parce que j'ai toujours un doute avec le micro dans cet endroit. Voilà. Déjà, si vous pouvez me confirmer ça avant que je m'amuse à faire quoi que ce soit d'autre. Ok, c'est parfait. Et si je fais ça, on va voir si ça fonctionne, parce que c'est toujours le... Ok, c'est bien ce que je me disais, donc... Pas de souci, on fera ça différemment. Bon, c'est parfait. Mais c'est parce que ça bascule sur une autre caméra, donc le son, il part en sucette, mais c'est pas grave, un de ces jours, je trouverai comment on fait. Salut Akibi, comme je vous disais hier soir, je vais d'abord finir les actus d'hier, parce que avec Antoine, on s'est laissé emporter comme d'habitude sur les Zooms. Hein. Moi, je devais faire course sur Crescendo Violence, ça a duré 40 minutes, au lieu de 15. Et oui, avec les deux, ça marche, ouais, tout à fait. Et puis Antoine, dès qu'on lui parle de Doctor Who, voilà, hein. Et encore, il s'est retenu, hein. Je pensais qu'il partirait sur une bonne heure facile, donc ça a été. Donc du coup, je vais juste déjà terminer les actus de la semaine. Il y avait quelques financements dont je vous avais pas parlé, principalement des financements en anglais, et franchement, il y en a des très très bons, donc je vais déjà vous parler, alors attendez, je vais essayer de voir si je peux, bon non, des partages d'écran, on s'en fout, je vais déjà vous mettre cet écran-là, voilà. Et je vais voir si on arrive à les ouvrir. Ce serait pas mal. Voilà. Hop. Alors, c'est tout à l'arrache. Hein. C'est l'émission s'appelle comme ça. C'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Hop. On va essayer ça aussi. Hop. Comme ça, je vous montrerai les onglets. Ce sera beaucoup plus simple que de vous copier-coller des trucs. Et ça vous permettra de voir de quoi je cause. Voilà, bon, de toute façon, il y en a quelques-uns quand même. Et quand vous allez voir un petit peu la masse de VO, vous allez comprendre pourquoi hier, c'est arrêté quoi. Parce que sinon, c'était pas possible. Hein. Hop, voilà. Et franchement, je suis en train de me dire qu'en VO, il y a des trucs beaucoup plus intéressants pour mes goûts à moi par rapport à ce qui sort en français en ce moment en financement. Mais et je précise bien par rapport à mes goûts, hein. Ça n'a rien à voir avec la qualité intrinsèque des projets français. Hein. C'est toujours bien de le signaler, parce qu'après, il y en a un qui se disent « c'est bon, il n'aime rien ». Si, si, quand même, ça va. La loutre, ça, c'était bon. Osprey, ça, je vais quand même vous le montrer, parce que c'était quand même très cool. Et puis les jeux indés. Parce que les jeux indés, je trouve qu'on... Alors, on en parle hein, sur la chaîne régulièrement, pas de problème. Mais je trouve qu'on n'en parle jamais assez par manque de temps, en fait, hein, tout simplement. Hein. On peut pas tout on peut pas tout faire non plus. Voilà. Voilà, voilà. Alors, si je fais présenter, partager écran, ça va être magnifique. Je fais la fenêtre, celle-ci. Youpi. Et bon, écoutez, on est pas mal. On est pas mal. Alors, du coup, vous le voyez. Donc, je voulais d'abord parler de At the Gate. Donc, qui est chez Onyx Pass. Alors, Onyx Pass, c'est les anciennes White Wolf, en fait, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qui avaient réédité les versions V20 hein, en sous-traitance hein, pour Wraith, Changelin, etc. Enfin, l'ancien monde des ténèbres, hein, celui que vous connaissez, que vous appréciez, qui ont perdu les droits parce que c'est Renegade donc, qui a tout récupéré. Voilà, donc c'est d'où les histoires de droits qui ont fait que ça a retardé le financement chez Arcane Asylum, hein, donc ce qu'ils expliquaient sur leur page de financement, on en a parlé rapidement hier soir, et chez Onyx Pass, ils continuent leur gamme, donc il y a du Pugmire, il y a Scarelands qu'ils ont relancé encore un peu, bien sûr il y a les Trinity Continuum dont un jour je vous parlerai, parce que c'est une gamme qui est très chère à mon cœur, Ion, Aberrant, Adventure, etc., etc. Et At the Gates, je sais pas si vous voyez un petit peu le graphisme, ça ressemble méchamment à du Final Fantasy Yoshitaka Amano. Alors c'est sur Backer Kit, hein. Il y a déjà plus de 800 backers, hein, ce qui est pas mal. Et en gros, c'est dans la mouvance de ce qu'on a vu ces derniers temps avec Fabula Ultima, Break, Obojima, etc. At the Gates, ça vous propose aussi d'aller sur Gaia, donc planète de High Fantasy à la Final Fantasy, hein, tout simplement. Et puis bah, d'aller vous amuser avec le Story Pass System, hein, les fameux D10, où vous lancez autant de D10 que vous avez dans les attributs et les compétences, etc. Bah, vous connaissez un peu le truc. C'est pas, si vous voulez, c'est, voilà, ils nous disent que c'est la narration, mais c'est un vieux système quand même. Hein, donc c'est pas ce qu'il y a de plus bandant, comme on dit. Hein, voilà. Bon, ceci dit, c'est très très beau. Ça promet d'être un truc assez. Assez joli en tout cas. Voilà, la présentation du monde, des nations, les professions, la création de personnages, art et magie, etc. etc. Ça donne un ton un peu désuet parce que c'est du en construction, hein, le work in progress, hein, comme ils disent. Hein. Mais ceci dit, ça a l'air d'être assez classique pour que ça tourne et d'avoir un monde qui soit assez original quand même. Donc c'est vrai que je vous en parle. Ceci dit, faites attention quand même parce que. Salut Yumikazu! Parce que chez Onyx Pass, leur grande spécialité, encore plus que les autres éditeurs américains, c'est qu'ils vous vendent des drafts. Je l'ai fait parce que j'ai pledgé deux Trinity Continuum, Adventure et alors c'est pas Aether, bon bref, peu importe. Et en fait, t'as un draft en PDF en version alpha, et t'attends un an et demi, le temps que t'aies le PDF en version finale avec un coupon sur Drive-Thru. Parce qu'ils n'en voient pas en Europe, ces braves gens. Il faut savoir qu'en fait, les anciens What If, c'est aussi les créateurs de Drive-Thru RPG. Donc les envois ailleurs qu'aux États-Unis, ça ne les intéresse pas, il faut passer par Drive-Thru. Donc si tu veux quand même un envoi d'une version premium imprimée, c'est $55-60 de frais de port. Ça fait mal. Alors, salut Chamel. Ben, la nouveauté, là, c'est des financements. Hein. La nouveauté, c'est At the Gate chez Onyx Pass, un Final Fantasy RPG. Plus ou moins, quoi, à la Break ou à la Fabulée Ultima, si tu veux, mais avec le système d'Onyx Pass. Donc voilà, pour celui-ci. Moi, franchement, si j'étais vous, si vraiment ça vous, ce genre de jeu vous intéresse, prenez le PDF uniquement, hein, c'est $25, je crois, de mémoire. Je vais regarder vite fait. Si je fais Back It, voilà, Primary Reward Tiers, c'est ça, $25, c'est du classique. C'est le tarif chez Onyx Pass. Et maintenant, ils sont chez Baker Kit. Alors pourquoi eux sont chez Baker Kit? Ça, je vous explique très rapidement, c'est que ils font tellement, tellement, tellement de financement. Alors, eux, ils sont clairement en cavalerie, hein, en avance de trésorerie, ad nauseam. C'est-à-dire que tu dois avoir 4 projets en cours sur Kickstarter, 3 ou 4 sur Baker Kit, t'en as de temps en temps sur Indiegogo ou sur, voilà, sur ce genre de plateforme, hein, parce que, bah, au bout d'un moment, quand ils en ont trop, les plateformes les dégagent. Donc, pour contourner, bah, ils le font sur plusieurs plateformes en même temps. Tant qu'à faire, hein, voilà. Donc, faites-le en connaissance de cause. Eux, ils sont vraiment clairement dans la cavalerie. Alors en France, on a des spécialistes, hein, de ça, hein, qui font de l'avance de trésor récurrente pour que la boîte elle tourne et payer les salaires, etc. Hein, donc, regardez un petit peu les grosses boîtes qui font le plus de financement, vous comprendrez tout de suite, hein, quand vous avez un financement tous les mois ou tous les mois et demi, vous comprenez bien que c'est ce genre de fonctionnement. Donc, c'est à vos risques et périls toujours, hein, ça marche sur la confiance. Voilà. Donc, Onyx Pass, en tout cas, ma foi, pourquoi pas? Ça, c'était le premier. Le deuxième financement dont on n'a pas parlé, dont on pense, hein, on est plusieurs, hein, dans l'équipe, hein. Donc c'est Valraven, The Chronicles of Blood and Iron. Alors celui-là, c'est pas de la cinquième édition déjà, ça change un petit peu, on est toujours sur Baker Kit, The World Anvil Publishing. Alors c'est quand même des gens qui sont dans le game, hein, comme on dit. Ils ont quand même ils ont fait Broken Tales, hein, qu'on a vu chez Arkane très récemment, ou Dead Air Seasons. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils nous promettent avec Valraven? Un monde à la Berserk. Ouais, tu le vois tout de suite avec ce genre de graphisme, l'éclipse, les mercenaires, donc on fait partie d'une troupe de mercenaires, dans un monde, ma foi, toujours aussi joyeux, quoi. Hein donc, le monde dont ils nous parlent, je vais vous lire le résumé, c'était très, très amusant. Un monde plongé dans des guerres qui semblent perpétuelles entre plusieurs factions, des empires, des hordes barbares, etc. Une église avec un dieu solaire, etc., mais totalement corrompu. Bonjour Berserk. Et des forces démoniaques qui popent par-ci, par-là, parce qu'ils disent, tiens, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Et vous, en fait, vous êtes les soldats d'une compagnie mercenaire et vous tentez de vous faire votre place dans ce petit monde si joyeux. Donc il va falloir quand même se serrer les coudes. Donc, très, très, très inspiré de Berserk, pour pas dire plus. Mais ceci dit, pour ceux qui aiment ce style d'univers, ça promet d'être assez intéressant. Alors bien évidemment, c'est déjà financé. Hein. 317 Baker, tu vois que peut-être que la Fantasy ou que la plateforme Baker Kit, c'est pas encore totalement connu. Ceci dit, il y a un Kickstart qui est disponible. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien, ce sera peut-être un petit peu mieux. Salut Talgaliel. Voilà, vous avez le lien, comme ça vous pourrez aller voir vous-même. Donc il est en anglais ou en italien, ça vous de voir. Hein. Et voilà un petit peu le genre d'ambiance, on est d'accord. Un gros hommage à Kentaro Miura, qui est malheureusement décédé. Donc voilà un petit peu le look. Pas de la gueule. Sincèrement, ça a méchamment de la gueule. Donc le livre de l'éclipse, avec les bébêtes qui vont bien, et qui nous font toujours plaisir dans ce genre de truc. Ça, à mon avis, ce genre de truc, il va pas tarder à arriver en français chez un éditeur qui a peut-être déjà édité Broken Tales. Donc on verra avec lui. Un jeu de tarot aussi, vous avez envie, hein, tant qu'à faire. Voilà, et bah, ma foi, du D. Donc c'est du D6, tiens, voilà. Bon, bah écoutez, au moins c'est pratique. Oui, bon, les print art, etc. Donc pour 19 balles, ben, vous avez le PDF, ce qui est déjà pas mal pour débuter. 33, c'est la totale en PDF. Et après, ben, ça monte. Voilà, 90 pour les deux bouquins, ça c'est pas mal. 120, là, vous commencez à craquer du slip. Un petit peu comme moi, hein, en fait, hein, quand c'est ce genre de projet. Bon, voilà pour Valraven, Chronicles of Blood and Iron. Celui qui suit, c'est toujours sur Backer Kit, ça a popé hier, j'avais mis une petite alerte, il y a déjà 1130 backers, donc c'est allé très très vite, c'est Shadowland Games, et là cette fois-ci on est sur une campagne pour l'Appel de Cthulhu 7ème édition en époque moderne. Donc là il va falloir qu'on découvre une conspiration bien secrète, mais qui va adapter le cycle bah, de la chèvre noire. Voilà, qui n'est pas le plus connu chez Lovecraft non plus, hein, ou dans les anciens, dans les écrits début 20e. Hein. Donc, bah voilà, à vous de voir comment vous allez vous en sortir là-dedans. Parce qu'en plus, il y a de la bio-ingénierie, des médias sociaux et plein d'autres choses qui sont vraiment adaptées à l'époque moderne. Comme ils le disent, en fait, à l'époque moderne, le mythe de Cthulhu, quand vous voyez un monstre qui apparaît quelque part ou un rituel, bah, ça pop sur les réseaux sociaux et puis bah, deux jours après, on n'en a plus rien à foutre parce qu'il y a d'autres trucs qui ont popé ailleurs. Donc c'est vrai que bah, pour les cultes, etc., c'est peut-être la meilleure époque pour invoquer tout un tas de choses. Donc ça va être à vous de démêler le vrai du faux dans cette campagne, qui a l'air franchement, pour le coup, super intéressante. Bon, il y a beaucoup de matos, hein, comme d'habitude, quand vous faites de l'Appel de Cthulhu, hein, avec une boîte remplie à ras-bord d'aides de jeu. Il y a même une petite aventure qu'on peut récupérer pour gratuitement, et le prologue aussi gratuit, en PDF. Si c'est pas magnifique tout ça. Franchement, moi ça m'interpelle, enfin en tout cas ça m'intéresse. Et en PDF, je vais essayer d'aller voir les prix hein, quand même, parce que c'est quand même mieux. Hein. Alors, c'est Pledge Level, voilà, c'est mieux. Où est-ce qu'ils ont mis les prix? 29€, putain, je ne les voyais même plus. Donc, oui, bah oui, Tristan Lhomme, il en a parlé, bah oui. Dès qu'il y a du Cthulhu, selon les auteurs ou les écrivains, bah forcément, Tristan Lhomme va en parler. Voilà, et j'ai remarqué qu'on se recoupait pas mal, en fait, hein, sur Flambeau des profondeurs, entre autres, son analyse était un peu comme la mienne. Enfin, il a d'abord fait lui, hein, avant que je fasse la mienne, hein, quand même. Mais c'est vrai que ça se recoupe pas mal. Et celle-là, elle a l'air vraiment, vraiment très cool. Bon, c'est encore de l'Appel de Cthulhu, mais c'est une campagne. Et c'est vrai que des campagnes qui sortent de l'ordinaire, je pense que c'est pas trop chez Chaosium qu'il faut les demander ces derniers temps. Et je dis pas qu'ils sont pas capables d'en faire. Parce qu'il y a une telle demande pour rééditer des vieux trucs que c'est compliqué pour eux aussi de sortir. Alors, ils ont fait les Enfants de la Peur, mais bah, c'est pas la meilleure des campagnes. Ensuite, on bascule sur Kickstarter. Et là, pour ceux qui connaissent, 7ème Cercle avait tenté une VF. Je dis bien tenté, hein, vous savez ce que j'en pense. De 13 Age, deuxième édition. Il faut savoir que c'est des créateurs qui faisaient partie de l'équipe de Donge 3 et Donge 4ème édition. Qui avait sorti ce système de jeu pour jouer de l'Epic Fantasy, High Fantasy, etc. Là, on est sur la deuxième édition, toujours sur du D20. Hein. Et bah, voilà, deux bouquins de base, un écran, etc. Ça avait eu son petit succès quand même. Il y avait des gens qui étaient intéressés par ce système pour jouer ce genre d'aventure plutôt que d'utiliser les règles de la cinquième édition, qui avait basculé sur 13 Age. Qui est plutôt intéressant hein, pour le coup. Maintenant, alors voilà, on est alors chez Pelgrane Press. Pelgrane, c'est pas non plus les petits éditeurs du coin. Donc il y a quand même 2365 contributeurs aujourd'hui, il reste 22 jours, donc ça quand même. C'est un petit succès. Voilà, tout petit, parce que chez nous, ça paraît énorme. Aux États-Unis, pour un jeu de ce type, c'est pas non plus fifou. Donc on est quand même sur 236 000 livres sterling récupérés sur 50 000 demandés. Donc ça va, ils ont de la marge déjà. Je devine que ça va aller plus haut. Enfin, c'est pas non plus le méga succès comme peut l'être un Pathfinder, par exemple. Enfin, ceci dit, si vous cherchez un autre style de système de jeu, ma foi, ça peut être pas mal. Je vous mets le lien quand même, c'est toujours plus pratique. Voilà. Hop. Et vous comprenez pourquoi j'ai voulu les faire ce midi, parce que sinon, il y en avait pour des plombes. Ensuite, si vous aimez les dessins animés, inspirés des aventures de Donjons Dragons, etc., vous connaissez forcément Adventure Time sur Cartoon Network. Voilà. Donc, écoutez, il est en financement. Ça, je pense que... Voilà, je sais qu'Arkane, à un moment donné, Arkane Asylum, voulait faire Adventure Time. Donc là, c'est Cryptozoic Entertainment qui s'en occupe. Et comme vous le voyez, il a suffi que je charge la page et il y a déjà 30 souscripteurs de plus. On est à 6606 contributeurs quand même. Hein. Bon, il ne reste plus que 8 heures avant que ça termine. Et 1 427 000 $ de récolté. Ça va, c'est un petit projet qui cartonne, quoi. Donc, par contre, c'est de la 5e édition. Ça, niveau règles, au moins, ils ne se sont pas cassés la tête. Tant qu'à faire un truc qui reprend les codes de Donj, autant récupérer les règles avec, et en les adaptant, bien évidemment, en espérant que ce soit aussi bien adapté que ce qu'a fait Cubicle 7, par exemple, sur l'anneau unique, Doctor Who, etc. Qui est un vrai effort d'adaptation plutôt qu'un mauvais copier-coller. Donc, ça a l'air vraiment sympa. Rempli de goodies, bien évidemment, parce que Adventure Time, tous les fans sont dessus, hein, donc voilà. J'avoue que les pochons pour l'aider, ils sont juste extra. Ça donnerait presque envie de craquer, mais non, hein. On va se calmer. Donc voilà un petit peu la bébête. Si vous aimez ce genre de truc, écoutez, c'est top. Ensuite, on rebascule sur du Cthulhu. Bon là, vous le savez, Sons of the Singularity. Ça fait partie des éditeurs que j'adore dans le game pour les aventures en Appel de Cthulhu en 7e édition. On avait déjà... J'ai Journal d'Anoshin, un de ces jours. Hein. Oui, un de ces jours, je ferai la chronique. Il y avait eu The Blessed and the Blasphemed que j'avais pledgé en PDF, qui se passe au Maroc dans les années 20. Et là, c'est la réédition donc, de The Sassoon Files qui se situe à Shanghai. Alors, la grande force des suppléments de Sons of the Singularity, c'est que c'est à la fois des bouquins d'univers, description de ville, etc., d'historique, des personnages et autres, et à la fois des scénarios. Alors certains peuvent faire des mini-campagnes, d'autres sont des one-shots à diverses époques. Ça, c'était le cas dans Journal de Chine, et Sassoon Files, donc ça se passe à Shanghai, et ça a l'air d'être une tuerie. Bon, c'est une réédition, hein, qu'ils ont réadaptée, etc. Voilà, magnifique. Enfin, moi, j'adore cette boîte. Et pareil, hein, ça... Il y a des scénarios. Alors, dans Journal de Chine, tout ne se vaut pas, hein, au niveau des scénarios. Je présuppose que là-dedans, ça va être un peu pareil. Parfois, en tout cas, ça a l'air très sympathique. Ouais, beaucoup plus de contenu. Ah ouais, voilà, c'est... En fait, ils ont repris le modèle de ce qu'ils avaient fait sur The Blessed and the Blasphemed, où ils ont sorti une boîte à part avec remplie à ras-bord d'aides de jeu, qui n'était pas le cas dans le Journal d'Anoshin, hein, d'ailleurs. Il y avait quelques aides de jeu, mais pas non plus la boîte, quoi. Donc, peut-être qu'à ces jours, ils le ressortiront. Donc, c'est The Keeper's Kit. Voilà. Toutes les cartes, etc. Ça, c'est The Blessed and the Blasphemed dont je parlais. J'aime beaucoup leurs écrans parce que ça reprend des affiches d'époque customisées par rapport au mythe de Cthulhu. Elles sont très, très sympas. Voilà, ça, c'est pour The Sassoon Files. Ouais, la boîte NJ, c'est ça, exactement. Mais je sais que toi, t'as pledgé aussi. Tu as bien fait, ma chère Chomel. C'est très, 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 très bon. Ensuite, on bascule sur... c'était pour les financements en VO. Sur les news éditeurs qui nous manquaient, je vous en ai parlé rapidement, c'est chez Osprey Game. Vous avez donc The Terror Bennis, Investigative Role-Playing Game of Weird Folk Horror, donc Scott Malthouse, 25 livres sterling, vous le trouvez à peu près entre 25 et 30 euros, entre autres sur Amazon ou sur Philibert, etc. Voilà, parce que c'est du Osprey Games, vous savez que c'est les boîtes à outils que j'adore particulièrement. Donc là, on sera à l'aube du XXe siècle, donc période édouardienne, fin de victorienne, début édouardienne. Et cette fois-ci, on va s'inspirer donc des travaux de Arthur Machen. Si vous connaissez Le Grand Dieu Pan, et c'est pas, il n'a pas écrit que ça, bien évidemment, c'est un des grands, grands inspirateurs de Lovecraft, hein, clairement. Oui, c'est entièrement de ma faute, mais oui, je sais, je suis toujours responsable des craquages des autres, moi. Mais je craque d'abord, hein, bien évidemment, vous avez bien compris. Donc en tout cas, celui-là me tente énormément, parce qu'en plus, c'est du système Gumshoe. Alors, quand vous mettez Arthur Machen et Gumshoe dans un bouquin de 130 pages, ma foi, craquage total pour le mois d'octobre. Vous avez bien compris. Puis franchement, vous voyez un petit peu la petite ambiance qui va bien avec effectivement les arbres. C'est vraiment la nature, en fait, chez Machen. La nature qui se rebelle, quoi, et qui vous en met plein la tête. Voilà. Donc ça me plaît. Maintenant, chez les indés, et vous savez ce que je pense de ce terme, mais en tout cas, voilà. On vous a déjà parlé de Passion de las Passiones chez Studio Absan, donc par Kellaren. Et cette fois-ci, et ben, ma foi, je vous mets le lien, il l'a sorti en paperback, donc couverture souple, vous avez la version imprimée de Passion de las Passiones. Donc si vous aussi, sous Système Apocalypse, vous avez envie de jouer les telenovelas, c'est le jeu qu'il vous faut. Voilà, clairement. Hein, si vous voulez savoir si Ramon il a trompé Isabella avec, avec Arita, ben, vous, regardez, vous prenez Passion de las Passiones. Je pense qu'il y a de quoi vraiment se marrer. Donc, super coup de Kellaren pour d'avoir traduit cette petite pépite de jeu. Donc, en tout cas, voilà, c'est dispo. Et en plus, c'est pas excessif, c'est 36 euros sans les frais de port sur Lulu. Donc, ben, si vous profitez d'un code à 15 ou 20% régulièrement, ma foi, n'hésitez pas à craquer. Et le dernier dont j'avais très envie de vous parler, je pouvais en parler la semaine dernière, mais on s'en garde toujours un ou deux pour chaque semaine, c'est Guillaume Janté, donc on dit toujours le bien qu'on pense de cet auteur. Donc il y avait eu La La Land of the Dead, et bien là, il a sorti un jeu qui s'appelle Mon Dernier Combat, et c'est comme celui de Nadège la semaine dernière, c'est des jeux en une page, recto verso, avec des règles minimalistes, pas de MJ. Voilà, on partage la narration et à chaque tour de jeu on va raconter un moment de la vie sombre et un souvenir heureux pour savoir lequel va gagner dans les pensées d'un gladiateur avant qu'il rentre dans l'arène pour son dernier combat. Voilà. Donc déjà tu te dis mais comment il arrive à penser à des trucs pareils quoi. Donc on partage les ça me fait penser un peu à des Ford Story dans le principe. Mais c'est Guillaume Janté, donc ça va être encore un truc de ouf. Et bien évidemment, vous pouvez récupérer soit gratuitement, bah soit vous lui donner quand même quelques subsides pour qu'il continue à nous pondre des jeux aussi super intéressants, quoi. Donc je vous ai mis le lien hein, dans le chat. Voilà un petit peu. Donc il avait été créé pour les Intergalactiques à Lyon. Voilà. Donc en plus, dans le fanzine de la Cale. Donc bah écoutez, super. Voilà. Hop. J'arrête là pour les news d'hier, vous comprenez ? Ouais, vous voyez, ça vient de durer déjà 20 minutes. Donc si j'avais rajouté 20 minutes de blabla hier, on faisait 2 heures d'émission et vu notre état, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc du coup, pour aujourd'hui, comme je vous avais dit, le but c'était de vous montrer quelques réceptions, dont une que j'attends depuis des lustres. Et je vous cache pas que ça fait 2 semaines que j'ai le carton. Et là, j'en peux plus. Donc je vais basculer sur la caméra. Voilà. Hop. Eh bien, écoutez, on va essayer de voir ce que ça donne. Allons-y. On ne cache pas que celui-là, c'est un de mes pledges les plus anciens et en même temps qui a eu le plus d'attente aux États-Unis où il s'est pris mais des torrents de boue. Hein. C'est-à-dire que nous, on râle quand... et quand je dis qu'on râle, on est gentil. Hein. Je crois qu'on n'est que 2-3 chaînes à dire vraiment c'est scandaleux quand il y a 5 ans d'attente. Ça, c'est... Ben, vous allez voir tout de suite. Hop. Depuis le temps que j'attendais, je suis là. Ça fait tout drôle, hein, j'avoue.
Et ben voilà.
Vous avez vu déjà le magnifique carton pour un tout petit truc. Et comme vous pouvez le voir, voilà. The Mothership. Enfin. Donc là, en fait, ce que je vous ai montré, c'est un kit de conversion. Alors ça, c'est le modèle des pamphlets. Oui, merci pour la nappe. Il faut remercier Carla. Voilà, c'est elle qui choisit. Et on la change régulièrement, bien sûr. Donc ça, c'est le modèle pamphlet de Mothership que j'adore. Donc c'est une petite feuille A4 qui est pliée en 3 au format cartonné. Dedans, vous pouvez retrouver des ajouts de règles, des petits bestiaires, des petites planètes, des petits scénarios. Et là, en fait, c'est un kit de conversion avec l'ancienne version de Mothership, la bêta, la 0. Et là, on a enfin la version 1 qui est arrivée. Alors moi, j'avais pris une version boîte de base. Donc ils aiment bien mettre ce qui s'appelle les patchs. En gros, c'est le truc que tu peux coudre sur tes vêtements si tu as envie. À la limite, pourquoi pas, tu vois, je peux mettre ça sur un t-shirt Lethal Company, qui est le jeu. Le jeu qu'on pratique beaucoup ces derniers temps. Alors, vous voyez la petite boîte, moi j'ai pris la version de base. Je sais que Ectelion, avec qui on discute régulièrement, hein, puisqu'on vous a un petit peu rabattu les oreilles avec Traveler ces derniers temps, et lui il a pris la boîte de luxe. La boîte de luxe, elle était un poil plus chère. Franchement, j'aurais plus, hein, mais pour avoir des rééditions d'anciens scénars. Ou des pins, ou des machins comme ça, bon, moi personnellement, c'est pas ma cam, je voulais déjà de quoi jouer. Et a priori, c'est déjà pas mal d'avoir de quoi jouer. Donc on a une boîte, ben, je la découvre en même temps que vous, hein, parce que ben, vous avez pu voir que ça fait 2 semaines que j'attendais. Hein, Ah, là, on ne me voit plus, mais tant mieux, parce que vous ne me voyez pas avec la bave aux lèvres. Alors, par contre, waouh, c'est serré, hein. Donc là, on a des petits standees. Donc, c'est pour mettre des petites figurines et les petits trucs comme ça. Voilà, si vous avez des petites planches en carton. Les dés qui vont bien pour jouer, donc des 10, des 100 et des 20. Le système Mothership, on en reparlera. Qu'est-ce que c'est que ça ? Là, oui, on a le compagnon. Un système de création de personnages et une application pour jeter les dés, si c'est pas magnifique. Ils ont débloqué pendant le financement. Donc, vous avez ça sur votre télé, sur votre smartphone. Ça, c'est vraiment la méga classe, quoi. Donc, voilà. Ça, écoutez, on verra ça. Et ensuite, le contenu de la boîte, ça me fait penser à la boîte de l'ami Olivier Anom 6 pour Space Horror Stories. Un peu le même genre de truc. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans ? Bon, il y avait un écran. Bon, c'est les écrans Mothership, hein, donc c'est... Voilà. C'est super joyeux, c'est super gay, super coloré, hein, comme vous pouvez le voir. En même temps, c'est Mothership. Voilà. D'ailleurs, je crois que je l'ai mis à l'envers. Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que je me disais, le M de Mothership, quand même, normalement, il est bien... Voilà, il est dans le bon sens, là. Vous voyez un petit peu, ça a l'air, mais particulièrement joyeux. C'est le ton du jeu, c'est pour émuler. Bah... Par contre, étonnamment, c'est assez lisible, alors que c'est tout petit. Mais vraiment tout petit. Je vous montre par rapport à moi. Vous voyez un petit peu, quoi. C'est tout petit, petit. Mais écoutez, au moins, il y a un petit écran, donc c'est toujours bien sympathique. Dedans, ils ont mis la table des blessures, des dommages, une considération tactique, des armures, la couverture, la mort, les jets de panique, les jets de sauvegarde, les jets de survie, les prix, les payes. Les méga dommages, ça c'est pour les vaisseaux, hein, je vous rassure, les signaux de détresse, la portée et la distance des vaisseaux, le coût du fuel, traveler mon ami, classe de vaisseau, le coût des voyages spatiaux, etc. Tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? Ah, ça c'est la table des dommages. Voilà. Voilà, voilà. Ça, vous le voyez. Hop. C'est pour les vaisseaux spatiaux. Et vous avez, en fait, vous déplacez vos petits vaisseaux bah, pour pouvoir vous affronter. Franchement, on peut s'en servir tel quel pour, comment ça s'appelle, pour Traveler, hein, en plus. Magnifique. Donc, j'aime beaucoup. Et au dos, on en a une autre. C'est trop bien. Regardez-moi ça. Ça m'a l'air d'être le plan d'un vaisseau, ouais, d'une station. Ah ouais, en plus on a le plan d'une station. Royal. Royal, royal. Et tout ça super bien plié, ce qui fait que du coup, vous voyez, hop, je le range, ça va tout dedans. Ensuite, eh ben, on a les petits pions, si vous voulez jouer façon figurine. C'est quand même fait pour, hein. Voilà. Avec les. Ça, c'est les compteurs, hein, pour les tours. Donc voilà, pour cette planche-là. On a ensuite encore des standees. Pour des vaisseaux, des bases, des personnages, des choses comme ça. On va être clair, dans Mothership, vous jouez quand même des prolos. Hein. Ensuite, le Player Survival Guide. Ça, c'est le cœur du système de jeu et de la création de personnages. Alors voilà voilà ce qu'est Mothership. Bien évidemment, on vous fera une chronique complète de Mothership. Ça, vous avez bien compris qu'on est très très fan. Puisque la maquette, comme dans Orbital Blues, sert le propos. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la maquette, ben, vous avez des textes qui s'encadrent dans les images, etc. Donc, enfin, moi, je sais que j'adore. Beaucoup de tableaux, c'est le système Mothership. Hein, pareil, je vous en reparlerai bien plus en détail. Beaucoup de tableaux aléatoires pour générer des planètes, des stations, des aventures, des personnages, etc. etc. Vous voyez, donc, c'est vraiment fait pour simuler ce que je vous avais appelé la Industrial Sci-Fi. Donc la science-fiction Indus ou Aurore à la Alien. Alors, soit rétro-futuriste, soit futuriste, soit vous choisissez, peu importe. Donc en tout cas, là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut, voilà, hop, pour jouer, c'est super. C'est le premier livret. Le deuxième, le Warden's Operation Manual, donc ça c'est le guide du maître. Et par contre, aucun espace ne se perd dans Mothership, hein. C'est-à-dire que première page, à l'intérieur, boum, des tableaux. Hein. On n'est pas là pour rigoler. Vous allez en bouffer du tableau. et on vous explique comment préparer votre première session, comment vous démarrer un scénar, trouver l'horreur, etc. Donc avec plusieurs exemples. Comment vous survivez, c'est ça. Les considérations tactiques, que voici, que voilà, toujours. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Donc c'est tout ce qu'il faut pour préparer, voilà, comment le jeu fonctionne. Et j'adore ce genre de truc. Pareil, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir 150 millions d'illustrations pour avoir quelque chose de propre et compréhensible. C'est le propos de Mothership. Donc vous avez, bah, sous la forme d'un diagramme de Gantt, c'est ça, je cherchais le terme, sous forme de gestion de projet, la découpe d'une gestion de scénario. Décrivez la situation, répondez aux questions des joueurs, attendez qu'ils prennent une décision, mettez en marche tout ce qui va gérer le conflit, attendez qu'ils s'impliquent et résolvez l'action. Voilà. Et pareil, des petits schémas pour vous expliquer le typical night of gaming. C'est marrant parce que dedans, il y a « I'm getting hungry, let's order food ». Voilà. C'est qu'à un moment donné, bah, tout le monde a faim, ce qui est normal quand on joue. Voilà un petit peu le genre de choses qui vous attend dans Mothership, hein, des petites joyeusetés, quoi. J'adore. Franchement, je suis super fan. Sachant qu'en plus, on sait qu'a priori, c'est Arkane Asylum qui a pris la licence pour Mothership, et là, je suis joie et bonheur. De toute façon, je pense que dans pas longtemps, on recuisinera Mathieu Saint-Toux parce qu'il n'y a pas de raison. Ensuite, on a le Shipbreakers Toolkit, donc bah, là, c'est tous les guides pour les vaisseaux. Comment générer ces vaisseaux? Voilà, un petit peu, comme je vous disais, hein, rien ne se perd dans Mothership. C'est vraiment redoutable d'efficacité. Hein, parce que j'avais déjà les PDF, comme je vous disais, depuis novembre, donc j'avais déjà pu en voir quelques-uns. Voilà un petit peu les exemples. Station orbitale. Encore une autre. Ça, c'est un vaisseau de transport, hein, carrément. Des chasseurs, freighter. Non, les transporteurs, pardon. Je ne sais même plus parler. Voilà. Et il y en a plein. Des corvettes. Voilà. Et à chaque fois, c'est des exemples. Et en même temps, vous avez le petit guide pour générer les vôtres. Ça, c'est les meilleurs. Les vaisseaux d'exploration, longue portée. C'est là où il arrive le plus de merde, hein, généralement. Voilà, comment gérer vos upgrades de vaisseaux, les transports, bon bref. Et la petite fiche du vaisseau. Magnifique. J'adore. Ça, c'était le troisième livret. Il y a un quatrième livret, c'est Unconfirmed Contact Reports. Bah, vous avez vu le petit dessin, hein. Regardez-moi cet astronaute qui pète la forme dans l'espace. Vraiment, on sent qu'il s'est éclaté la panse, le pauvre gars. Qu'est-ce que c'est dedans? C'est sci-fi horror RPG. Donc là, c'est plusieurs horreurs qui peuvent vous attendre dans l'espace, pour faire simple. Et franchement, il y a du niveau. Et comme je vous disais, les dessins, il y a de tout. Il y a de tout parce qu'on part du principe que c'est des rapports de personnes qui ont pu croiser ou qui se sont fait dézinguer et qui ont laissé quelques traces. Donc ben, y a des gens qui ne savent pas dessiner, ben voilà. Y compris des photos. Voilà. Et j'adore ce genre de choses. Vous voyez un petit peu, quoi. Ouais, ça ressemblait à un mec tout jeune. Ben voilà. Donc, vous en avez plein comme ça, quoi. Avec, bien sûr, des rapports de données pour expliquer ce qui vous attend. Voilà. Il y a un petit côté Lethal Company. Hein. Je pense qu'ils ont dû lire Mothership aussi, ces braves gens. Et il y en a plein. Il y en a plein comme ça. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Et ensuite, pour finir, on a un scénario. Another Bug Hunt, qui est une réédition, hein, il existait déjà pour l'ancienne version. Et bah, pour se lancer et comprendre comment ça fonctionne, une aventure introductive à l'univers de Mothership. Et voilà comment ça se présente. Les personnages et les petits pions que vous avez vus. La timeline, la chronologie. Qu'est-ce qui se passe avec les petits schémas qui vont bien. Ils fonctionnent tous de la même façon. Hein. La menace, hop, je passe très vite. Les signaux de détresse, parce qu'il y a toujours un signal de détresse à laquelle on répond, hein, bien évidemment. Voilà, etc. Bon, bref. Un petit scénar qui va bien, avec tous les endroits à visiter, tout ce qui peut s'y passer. Et bien sûr, bah, ça se passe pas toujours bien, hein, on est bien d'accord, parce que c'est ça qu'on aime dans ce genre de jeu. Voilà pour Mothership. Franchement, je suis à fond. Oui, il y a une petite vibe Lethal Company, hein. Comme je suis en plein dedans avec les amis, puis Antoine et sa femme, voilà, on s'amuse bien d'ailleurs, très très amusant comme jeu. Donc voilà, hop, je me remets en plus grand avant de vous présenter l'autre, donc hop, voilà, c'est mieux. Donc bah, comme vous avez compris, Mothership, on va en faire une spéciale pour vous décortiquer tout le système, comment ça fonctionne, comment on crée un personnage, qu'est-ce qu'on peut jouer comme aventure, etc. Donc on va essayer de vous décortiquer ça correctement. à plusieurs, parce que je fais passer les PDF aux copains, hein, bien évidemment. Et pourquoi je vous en parle, c'est que avant de recevoir Mothership, j'ai reçu toute une collection de scénarios, de settings que j'ai pledgés au fur et à mesure et qui sont arrivés avant Mothership. Extraordinaire. Donc premièrement, on fera la chronique de la totale. Hein. Vous aurez, hop, allons-y, 10 ships is a tomb, déjà, par Faylight Publishing, qui a carrément son petit écran, celui-là, quoi. Vous voyez un petit peu, des fois, il y a des petits trucs comme ça. Et j'aime bien, ça fait le petit vaisseau et qui va bien, quoi. Voilà un petit peu le genre de petit truc. Et comme je vous disais, c'est du Mothership, hein. Des tables aléatoires, vous allez en bouffer. On est d'accord. 10 ships is a tomb, je ne sais même plus exactement ce qui se passe. Bon, c'est, voilà, vous arrivez sur un vaisseau où il s'en passe des vertes et des pas de mur, hein, bien évidemment. Pourquoi vous êtes là, pourquoi vous devez retrouver le vaisseau, les différentes procédures, et bien sûr, dans le vaisseau, je ne vous expliquerai pas tout ce qui s'y passe, ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, déjà pour celui-là. Ensuite, j'avais, là c'est un beau pavé, Hull Breach, chez Anodyne Entertainment. Et là, vous voyez, c'est couverture cartonnée. Hein. Et toujours pareil, hein. Dès que vous ouvrez, boum, des tables. Parce qu'on ne perd pas d'espace, comme je vous l'ai dit. Et là, par contre, c'est un setting et des scénarios. Avec voilà, des différentes missions, etc. J'essaie de vous montrer un petit peu mieux. Voilà. Vous inquiétez pas, ceux-là, je vous en ferai des chroniques au fur et à mesure. Mais j'attendais, en fait, parce que ça fait un an hein, que je les ai, ceux-là. Facilement, ouais, même plus d'un an hein, pour certains. Hein. Donc, je vous en ferai des chroniques pour accompagner, faire une espèce de rétrospective spéciale Mothership de tout ce qui est sorti. Donc franchement, celui-là, il fait partie vraiment du haut du panier. Non mais regardez-moi ça, quoi. Enfin, je veux dire, quand vous voyez ça, vous avez juste envie de fuir. Ben voilà, bienvenue dans Mothership. Donc Hull Breach, très très cool. Ensuite, est arrivé il y a 2 mois, Tide World of Mani. Donc là, on est sur un monde un petit peu aquatique, hein, avec beaucoup de marées, hein, bien évidemment. Vous arrivez en plus au moment où une révolution se met en place. Si c'est pas magnifique comme ambiance. Parce que vous n'êtes pas obligé de mettre des monstres à chaque fois avec Mothership. C'est surtout des ambiances, en fait, qui sont intéressantes et un style de technologie. Et là, vous voyez, hop, révolution, les amis, révolution. Donc, vous vous retrouvez en plein milieu. Alors après, il peut se passer des choses en plus. Et pareil, comme je vous disais, les graphismes, voilà, hein, on fait simple et ça fonctionne. Et ensuite, avec une bonne maquette, bien foutraque à la Mothership, ça passe crème, un peu comme Morkborg, hein, en fait, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, Tide World of Mani. On avait plus petit Derelict, qui est une aventure. Voilà. Pareil. Voilà le... Première et deuxième page. Oui, ah ouais, des tables, là, il y en a partout. Donc, on est, en fait, pas loin d'un trou noir. Toute ressemblance avec Interstellar est tout à fait voulue. Sauf que là, ce n'est pas la physique qui lutte contre vous. C'est autre chose. Donc voilà, comment naviguer près d'un trou noir, un petit peu de considération physique, de science dure. Pareil, des petits schémas qui vont bien pour les forces gravitationnelles, parce que effectivement, le principal ennemi dans Mothership, c'est l'espace. Ça fait vraiment peur en fait. Et on vous explique le setting, ce que vous allez pouvoir trouver dans la station. Vous allez un petit peu étudier tout ça, il va s'en passer des vertes et des pas mûres. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, voilà un petit peu le genre de truc, quoi. C'est incroyable, moi j'adore ça, hein, c'est vraiment inventif, hein. Tu sens que les types, ils se lâchent complètement avec ces formats-là. Et on est sur une trentaine de pages, une quarantaine de pages. Voilà. Donc des reliques. On avait ensuite Orbital Débris, ça c'est mon préféré. Les chroniques d'une lune décharge, une lune poubelle. Donc vous êtes sur une lune poubelle. Et c'est une aventure, en fait, un setting plus aventure. Vous récupérez donc les débris, etc. Sauf que il va commencer à se passer des choses sur cette lune, ça va être à vous de voir comment vous vous en sortez. Et pareil, voilà un petit peu le genre de dessin, quoi. Toujours très cool. Alors, si tu veux des tables dans celui-là, alors celui-là, non, tu vois, un petit peu feignasse. Hein. Première page, il n'y a rien. Un peu déçu, là. Mais des tables, oui, il y en a. Hein. Hop. Voilà, encore des tables. Il y en a partout. Un autre qui sera avec, c'est The Ocean en Endless on Meridian. Donc, c'est un monde océan. Avec une épice qu'on peut récupérer sur cette planète. Et ça a l'air vraiment très très cool à nouveau. Pareil, c'est un setting, les lieux emblématiques, les personnages et des aventures ou plusieurs aventures avec l'écologie, les monstres, etc. S'il y en a, bien sûr. Donc celui-là, qu'est-ce qu'on avait d'autre ? Bah, celui-là, je vous l'avais montré. Là, ça, c'est Mirror Image. Donc c'est pareil, c'est une petite aventure. Ça, c'est les petits formats qu'il faut avoir pour Mothership. Et c'est que des auteurs qui sont dans la mouvance Mothership, qui discutent avec les créateurs et qui créent leur propre truc. Donc là, c'est Earl of Thief, c'est Cody Lee et Jason Duff. Bon, Jason Duff, il fait partie de ceux qui font beaucoup, beaucoup de choses pour Mothership. Et là, on est sur un module de 28 pages. Voilà. Donc là, vous jouez des nettoyeurs. Parce qu'il faut toujours passer les produits chimiques pour enlever la vermine. Et bien évidemment, le gros, énorme coup de cœur, c'est Cloud Empress. Cloud Empress, ça utilise le système Mothership, mais on est sur un univers totalement différent, qui est très, très inspiré de Nausicaa, la Vallée du Vent. Voilà. Donc, il y a plein de choses. Là, le deuxième est en financement. Moi, j'adore. Je trouve ça extraordinaire comme truc. Bon, voilà. Voilà un petit peu ce qui vous attend en chronique, rien qu'avec Mothership. Ensuite, histoire de pas faire tomber la salière tout de suite. Salut, William. Ouais, Nausicaa. Ouais. Mais c'est vraiment très, très inspiré. Je vais essayer de te montrer ça vite fait. C'est Watt qui fait ça. Alors, il faut aimer les tables, hein, comme je t'avais dit. Voilà. Tu vas bouffer de la table aléatoire. Mais alors, voilà. Qu'est-ce que c'est Cloud Empress ? Donc, c'est la nature qui se rebelle. Hein. Elle n'est pas contente. Hein. Ça, on est d'accord. On est un petit peu... Bah déjà, moi, la maquette, j'adore toujours. Hein. Là-dessus, c'est vraiment de la bombe. La création de perso adaptée pour Cloud Empress, avec sa petite fiche de perso. Puisqu'il tweak, en fait, hein, le système Mothership. Voilà. Les Sellswords. Donc, ça, c'est les mercenaires. Lordling, bon, tous les différents personnages, que les différents archétypes que vous pouvez créer, vous inquiétez pas, je vous en parlerai. Les Imago et les Chalk, donc voilà, c'est tout ce que vous pourrez y croiser. Farmerlings, ça c'est les fermiers. Voilà un petit peu, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Salut Tételi. Les règles spécifiques, et c'est surtout, moi ce que j'aime beaucoup, bon, voilà, c'est vraiment la partie graphique qui va avec l'univers qui vous est proposé. Et on est vraiment dans quelque chose qui est très Nausicaa, quoi, hein, où l'humain a essayé de... Alors certains humains, certains clans se sont alliés à la nature et aux forces qui ont popé, et d'autres bien sûr essaient de la combattre, hein, ça. Donc c'est plusieurs choses qui... Voilà, et pareil pour les habits. Ça fait très Nausicaa, on est bien d'accord, c'est tout à fait voulu, et c'est vachement bien. Alors oui, Terry Erk, effectivement, il fait beaucoup de choses. Yumekazu, je mets pas ton truc apparaître, ta question apparaître. Terry Erk, j'avais pledgé un de ses trucs qui était pour du Death in Space, donc on n'est pas loin de Mothership. Hein. Sauf que, en fait, c'est rempli d'images par IA. Mais quand je dis rempli, c'est qu'il y en a partout. Donc, bah, du coup, ces projets qui ont suivi, je les ai pas pris. Ce qui est con parce qu'il est hyper créatif, il y a pas mal de choses intéressantes. Mais là, les dernières tables qui sortent, c'est carrément du chat GPT. Donc, dégoûté. Voilà, vraiment dégoûté. Hein. C'est quelque chose que j'attendais, ces prochains projets. Et quand j'ai reçu The Eternal Search, qui est une très bonne aventure en plus, bah, calmé net. Vraiment calmé net. Très dégoûté. Voilà. C'est dommage. C'est con quand t'as un type qui a un peu de talent et puis bah, qui fait sa feignasse, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Bah, c'est ce que je vous ai dit. Hein, j'ai acheté il y a pas longtemps... ce week-end, hein, j'avais chopé à une braderie, donc Destart Expert, pareil, je ferai une chronique, et je vais le montrer beaucoup plus vite, c'est la deuxième boîte, donc Destart, après la première, écrite par Fabien Fernandez, hein, édité chez Open Sesame Game, qui est sorti l'an dernier, hein. Et Fabien, en fait, il a réussi à trouver un peu comme ce qu'a fait Gigamic ensuite avec les Critical, il a trouvé ce qui fait l'essence d'un jeu de rôle, c'est-à-dire des règles très simples, des scénarios conçus pour durer le moins de temps possible, pour aller directement à l'essentiel et dans des univers connus. Alors, il n'y a pas les licences, mais on les trouve tout de suite. Voilà. Oui. Hop. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on y trouve ? Comme d'habitude, un petit écran qui va bien. Bafoua, qui est plutôt pas mal. Alors, c'est des écrans personnages. Hein. Vous savez ce que j'en pense, c'est-à-dire rien, tellement je trouve ça nul. Mais, bon, écoutez, vous avez le mérite d'avoir un écran qui vous montre un petit peu les différentes ambiances que vous allez pouvoir jouer. Parce que c'est ce qui compte, c'est ce qu'on va jouer. Donc, plein de D6. Alors, très sincèrement, les D6, c'est bien d'en mettre. Hein. Mais alors là, par contre, c'est des dés pour des petites mains. Après tout, pour faire jouer des enfants, pourquoi pas. Très cool. On a toutes les petites fiches de personnages. Donc, ambiance western, etc. Hop. C'est ça que j'adore. Alors, il y a moins de matos que dans la première boîte. Bah, c'est normal parce que c'est une boîte d'extension, tout simplement. Donc, vous avez des cartons à découper qui sont vos petites fiches de personnages, vos X-cards, hein, bien sûr, et tous les plans qui vont avec les scénarios. Parce que pour faire marcher l'imaginaire, il n'y a rien de mieux, hein, quand même. Hein. Voilà. Et ensuite, on a les règles de jeu experts. Toujours du noir et blanc, parce que ça permet de réduire les coûts, et puis ça marche très bien. Hein. Et c'est des règles avancées pour faire deux, trois petites choses en plus dans, avec Distart. Donc pour customiser un peu mieux ces personnages, les métadés qui ressemblent un petit peu à du Fate, avec les X et les faces sans rien, un système d'avantages et d'avantages, etc., le rôle du narrateur. Donc pas mal de petites choses en plus, voilà, qui vous donnent plein d'exemples, toujours bien. La fiche de perso, hyper simple. C'est la grande force de Destart. Hein. Et ensuite, quatre scénarios, forcément plus développés, qui vont plus profondément que ce qu'il y avait dans la première boîte, qui était vraiment très orientée initiation. Là, il faut avoir peut-être joué à la première pour se mettre sur celle-là. Mais on en rediscutera avec Fabien, de toute façon. Donc, on a du Western, Sous le soleil de l'Ouest, avec des ranches. On a une chasse aux vampires, c'est toujours bien pratique. Voilà. Et à chaque fois, vous avez le synopsis, la description de l'univers, mais toujours hyper résumé, très aéré. Le début du premier acte avec les à lire, etc. Tout ce qui va bien, les petits personnages. Et à chaque fois, les petits conseils qui vont bien pour mener l'aventure. Donc, super bien foutu. On a la Compagnie des Bois qui est du médiéval fantastique. Voilà. Qui fait très Robin des Bois, tout simplement. Donc des univers très balisés, hein, voilà. Et le village des mages, toute ressemblance avec Harry Potter est totalement voulu, mais on le dira pas parce que on n'a pas les droits. Voilà. Donc ça fonctionne toujours aussi bien. Et comme je vous disais, celui-là, on en fera une chronique. Excusez-moi, j'ai un chat qui est en train d'essayer de mourir dans la gorge. On va le laisser mourir gentiment. Puis je vous cache pas qu'avec les projos, commence à faire chaud. Ensuite, c'est l'instant sel. Alors sortez les salières, ça va pleurer dans les chaumières. Pas trop quand même, hein, parce que c'est pas le but non plus de défoncer des jeux juste pour se faire plaisir. Ça n'a pas trop d'intérêt. Allons-y pour les lames du cardinal, la version collector. Donc c'est un pledge perso. Tout ce que je vous ai montré, c'est des pledges ou des achats personnels. Toujours important de le signaler. C'est vrai qu'on n'a pas signalé d'ailleurs hier soir, c'était des achats personnels aussi. Salut l'email. Déjà le coffret. Bon, le coffret, il a un peu pris quelques coups dans le transport, mais c'est pas dramatique comparé à certains, donc je suis déjà plutôt content. En plus, j'étais là pour tout récupérer. Donc la collector, je rappelle, cette petite bébête, 240€ sans les frais de port, hein. Quand même. Donc voyons un petit peu ce qu'on a dedans. Enfin, je n'ai même plus parlé. Terrible. Vous avez déjà un écran. Alors, à l'écran, ça paraît sombre, parce que je sais que KFR, c'est la story, hein, les gens en parlaient. C'est vrai qu'à l'écran, ça paraît sombre, ça ne l'est pas du tout quand vous l'avez en main. Clairement. Et là, je pense qu'avec l'éclairage, vous voyez mieux que... Oui, 240€, ouais. Donc on voit bien les dragons et nos mousquetaires, hein, qui sont là. Les fameuses lames du cardinal avec... la petite auberge qui va bien. Donc c'est pas aussi sombre que ce que vous pouvez croire. J'aime beaucoup par contre. Alors, j'aurais pu aimer la partie MJ. Les tableaux sont là. Par contre, putain, mais qu'est-ce que c'est écrit petit ? Ça saoule, c'est incroyable. C'est vachement petit. Et alors qu'il reste encore plein d'espace, quoi. Bah, utilise l'espace pour mettre une police plus grosse, quoi. Enfin, j'en sais rien. Je suis pas maquettiste, hein, là-dessus, je peux pas vraiment dire. Mais c'est écrit tout petit. C'est un peu dommage. Ceci dit, bon voilà, ça a le mérite d'être clair. Les tableaux sont assez clairement identifiables. On a ensuite les deux bouquins. Ils eux sont qui étaient à 45€ chacun. Et je crois que de mémoire, vous les trouvez à 50 et quelques et maintenant dans le commerce. Donc ça, c'est les versions collector, mais vous trouvez très facilement les deux dans le commerce. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez le jeu avec le système, la création de perso, tout ce qui va bien. Et la présentation de l'univers. Donc les deux séparés. Je précise. Non, il n'y a pas le nom du jeu dessus. Je précise que moi, je n'avais aucune des deux boîtes de la VR. Tout ce qu'on connaît, c'est surtout ma femme, en fait, qui est très très fan des romans, qui les a poncés, audio lu, lu, version collector, enfin il y a deux versions différentes, sans compter les BD, je ne sais plus ce qu'il y a encore sur, sur l'univers de, des lames, enfin, c'est, les recueils de nouvelles aussi. Donc voilà, beaucoup de choses ici sur les lames du cardinal, qui effectivement est un très très bel univers. Et c'est pas des BD, ça, c'est, les, mystères, c'est les trucs de Paris, là, que je confonds. Les artilleuses. Donc les deux bouquins, on en parlera plus en détail avec Antoine, parce qu'Antoine, bah, il a la V1. Je ne sais pas si Marilyn, toi, tu avais la V1 aussi. Enfin, tu pourras laisser le commentaire dans le chat, puis on en discutera entre nous pour ceux qui ont la V1, parce que moi, comme je ne l'ai pas, enfin, nous ne l'avons pas, on est deux ici à la maison, ce serait intéressant de voir les grandes différences entre cette V1 et cette V1.1.5, d'après ce que j'ai compris. Bah, tu ne connais pas du tout non plus. Bon, bah, écoute, voilà, on sera deux. On fera les noobs par rapport à Antoine et Manu. Donc, en tout cas, le format des bouquins, c'est des petits bouquins. C'est pas du A5, c'est pas du A4. Donc, comme vous le voyez par rapport à moi, c'est pas, je m'attendais pas à des trucs aussi petits. Après, c'est le format d'Aircraft. Bon, bah, il faut le savoir. Mais c'est sûr que quand vous payez 45 balles un bouquin, vous avez un format plus petit que ce que vous pensiez. Après, c'était indiqué, hein, il suffisait juste de lire. Bah, des fois, je ne lis pas. Donc, la carte de France de l'époque. Alors, moi, j'aime bien, personnellement, les cartes de France d'époque. C'est très bien. Parce que si on joue dans une époque historique, autant avoir les cartes telles que les gens les connaissaient à cette époque-là. Et pas telles que nous, on les connaît maintenant. Bon. Est-ce que les lunettes sont incluses dans la boîte? Non. Pas du tout. Par contre, voilà, bon, c'est Loïc Musy et puis d'autres illustrateurs aux manettes. C'est très, très beau. Et c'est super bien maquetté. Enfin, là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà, on reprend l'illustration de l'écran en plus sombre. Voilà, 20 ans après. La fiche de perso qui vous est ensuite expliquée par le détail. Donc ça, j'aime bien, voilà, le fonctionnement du jeu. Il y a des résumés. Le fameux tarot. Hein. Les lames du cardinal, donc le fameux tarot qui va bien avec. Toute leur histoire. Voilà, déroulement des nouvelles lames, création des persos. C'est ça, j'aime bien, voilà, ce genre de choses où on t'explique sur une ou deux pages, on te fait un résumé synthétique de comment ça va fonctionner. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, est-ce que c'est écrit petit? Quand même, ouais. Par moment, ça peut être écrit petit. Je dis bien par moment, pas tout le temps. Parce que l'avantage de celui-là, c'est que c'est pas complètement ramassé, comme tu peux le voir. Il y a pas mal d'aération dans la page pour que, même si c'est petit, ça va. Tu ne vas pas t'arracher les yeux non plus. Tu vois, sur des trucs comme ça, tu vois, ça paraît petit, mais en fait, ben, moi je l'ai en face de moi et c'est tout à fait lisible. Peut-être les exemples sont un peu moins lisibles. On les voit sur le côté là. Voilà. Ça, c'est un peu dommage. Et c'est. Ben, je vais vous en parler ensuite à toutes les écoles de mage, les écoles d'épée, etc. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que ben, forcément, on fera une chronique complète hein, du bouquin parce que c'est la moindre des choses. Et puis que ça a l'air vachement intéressant. Donc les magies, les dragons, etc. Bon, j'ai pas. C'est juste pour vous montrer simplement les bouquins. Donc voilà, les plans qui vont bien, les différents PN, les différents profils, etc. Ça, c'est le bouquin sur les règles qui vont bien et le bouquin sur l'univers. Et là, par contre, bah, on va se faire toute l'histoire des lames. Le résumé de ce qui s'est passé dans les romans. Ça, c'est quand même super beau, hein, comme vous pouvez le voir. Et puis ce qui s'est passé, enfin tout ce qui s'est passé dans l'entre-deux par rapport à l'époque du jeu, on est quelques années plus tard, 15 ans plus tard. Donc vous avez beaucoup, beaucoup de choses, là c'est beaucoup d'univers. Ça c'est le moment en fait où, même si la maquette est claire, ça va être plus compliqué à lire parce que là, vous allez bouffer de l'univers en long, large et travers. En même temps, c'est le titre du bouquin, donc vous savez ce qui vous attend. Quand même. Donc, on va pas critiquer une présentation d'univers quand c'est indiqué dès le début. Alors après, il y a des accroches hein, pour créer ces petits scénars, etc. Les différents personnages qui vont bien, les personnages historiques, mais dans le cadre des lames, etc., etc. Bon, moi, j'aime beaucoup Paris, mais j'aime beaucoup ce plan-là aussi. Voilà. Donc sur les bouquins, je peux pas dire grand-chose, en tout cas au niveau du rapport qualité-prix, parce que super qualitatif, très belle maquette, les illustrations sont classe. De ce que j'ai compris, une grande partie des illustrations sont récupérées de la V1. Alors un peu retravaillé et autres, mais ça revient de la V1. Donc à voir la différence entre V1 et V2 de ce qu'on trouve dans ces ouvrages. En tout cas, moi je le trouve au niveau juste de la forme, vraiment superbe. En tout cas, très chouette. À voir ce qu'il y a dedans, comme je vous disais, mais ça, on y viendra plus tard. Maintenant, je vais vous parler de ce qui pour moi m'a scandalisé. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Déjà, premièrement, Je vous laisse voir l'intérieur de la boîte. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous montre? Ben, regardez le fond. C'est même pas collé correctement. Donc, il y a des espaces noirs, etc., qu'on ne voit pas dans des boîtes luxe, si vous voulez, puisque là, je vois du noir hein, dans le fond. Hein. Donc, en fait, c'est même pas collé correctement. Même pas découpé correctement. Et là, on est sur une boîte qui fait partie d'un truc à 240 balles. Hein. Déjà, on commence. Déjà, ça... Après, attention, hein, ça brille, c'est doré, machin. Enfin, entre un truc doré et un truc qui soit collé correctement, ce serait mieux. Donc, on va attaquer ce qu'on appelle le nécessaire. Alors, pour ceux qui avaient les boîtes V1, ce que j'ai compris, on va retrouver beaucoup de choses qui étaient dans les deux boîtes, base et arcane, qu'on va se retrouver dans ce fameux nécessaire qui débloquait plusieurs éléments au fur et à mesure du financement. Pour info, cette jolie petite boîte, pareil, hein, dorée, etc., que vous trouvez dans le commerce, hein, c'est 99€. Voilà. Déjà 99€ pour une boîte. OK. Et là, vous vous dites, bon, bah, d'accord, 99€, mais qu'est-ce que j'ai dedans? Bah, on y vient. Allons-y. Pareil, je ne vais critiquer que la forme, pas le fond. Parce que le fond, c'est des outils là-dedans qui servent réellement dans le jeu. C'est pas non plus du gadget. Hein. Donc vous allez m'entendre râler, je préviens par avance, hein. Mais tout simplement parce que c'est le rapport qualité-prix qui me gêne. C'est ça qui est très très dérangeant. Donc déjà, premièrement, un ex libris. Voilà. Vous savez ce que je pense des ex libris, c'est-à-dire poubelle. Voilà, aucun intérêt à part se faire plaisir. Enfin, pour moi, hein, bien évidemment. On a donc, je crois que ça s'appelle la piste arcanique, je ne sais plus exactement. Donc, c'est là qu'on met les lames. Donc, cartonné là-dessus, là-dessus, rien à dire. Propre. Pas super bien découpé non plus, quand même, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Il n'y a pas d'effort sur les. Sur le carton, donc bon, écoutez, ça c'est fait. On a ensuite les fiches de perso. Bon, jusque-là, il n'y a rien à dire. Les fiches de perso sont très bien. J'en ai pas 3 tonnes non plus. Hein. Je crois qu'il devait y avoir une dizaine, ouais, pas plus. Bon, ce qui est déjà pas mal. Ça, je le montrerai après. On a des fiches d'aide de jeu pour l'escrime avec le résumé des bottes. Voilà. Sachant que il n'y a que ça, hein. Faudra les partager au milieu de la table. Hein. Ensuite, vous allez avoir des plans à plus savoir qu'en foutre. Et quand je dis plus savoir qu'en foutre, je suis gentil. Premièrement, l'hôtel de Sens, donc qui est le quartier général des Lames. Hein. Donc le voici, avec la feuille de Sens. Ça, c'est plutôt pas mal. Et comme je vous disais, des plans. Des plans qui font époque 17e siècle, quoi. Donc vous avez l'Europe. Bon, moi, personnellement, j'aime bien. Il n'y a pas photo. La map monde. Voilà. Maintenant, est-ce que les lames iront sur d'autres continents? Ça, franchement, quand je vois déjà tout ce qu'il y a à faire en France, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui verrez. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la carte de la France. Donc, voici que voilà, qu'on reprend en plus grand. Bon, moi j'aime bien. J'aime bien. Ça montre comment certaines régions sont voyaient plus grosses que d'autres, des fois, ou bah, comment les cartographes travaillaient. Il n'y a pas les satellites à l'époque, hein, les enfants. Le découpage des duchés, etc. Bien pratique aussi pour savoir que si vous êtes en Basse-Guyenne ou dans le Dauphiné, hein, ça peut être sympa. Vous avez ensuite un plan de Paris. Alors n'essayez pas de lire, hein, parce que c'est écrit trop petit, même pour moi. Mais en tout cas, j'aime bien ce plan-là. Le plan de Paris avec les indications pour le MJ, hein, les différents endroits. Vous avez ensuite un plan de rue. Ça doit servir à un moment donné dans un scénar. Les plans, c'est pas non plus du papier de super qualité. Hein. Franchement, je m'attendais à mieux quoi, en termes de papier pour les cartes. Déjà, ça c'est aussi une petite déception. Après, les cartes sont très jolies, hein, y a pas de souci. Mais quand il y en a qui font du papier glacé, là, c'est. La durée de vie, je sais pas. L'église Saint-Eustache. Avec pareil, côté MJ, côté PJ. Hein. Ensuite, le donjon du Louvre. Voilà. Bon, un petit peu très joli, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup de plans. C'est toujours pratique. Les relais. Le relais, pardon. Nous avons l'hôtel de Sens dont on vous parlait, hein, quartier, le fameux quartier général. Que voici, que voilà. C'est toujours mieux avec un gros plan au milieu. Et le rez-de-chaussée de l'hôtel de Sens, parce que le jardin et les écuries, ça peut servir aussi quand même. Hein. Voilà pour les plans. Et ensuite, voilà ce qu'on trouve dans la boîte. Et là, tout de suite, vous dites, mais pourquoi ça se balade? Eh bien, figurez-vous, vous allez adorer. Vous avez déjà, je remets ça en place, le fond de notre boîte, c'est du carton. Donc déjà, thermoformat, je ne connais pas. Bon, pourquoi pas? Sauf que là, ici, bah déjà, quand je prends toutes mes petites cartes des différentes écoles, déjà, bon, elles sont petites, mais ça, c'était comme dans la VR. Et là, je vais vous montrer un truc, vous allez comprendre tout de suite déjà ce qui ne va pas. C'est mal découpé. Bah, vous voyez que la marge en noir est beaucoup plus grosse d'un côté que de l'autre. Donc déjà, c'est très très mal découpé à la machine. Donc le contrôle qualité chez Eldercraft, je ne sais pas où il est passé, mais clairement pas dans la boîte. Ça, c'est sûr. Sûrement sur les bouquins, mais dans la boîte, mais non. Non, non, je pense que le fournisseur s'est un peu foutu de leur gueule. On va dire plus, parce que c'est un carnage, quoi. Et en plus, donc ça, tout ça, c'était plusieurs petits paquets hein, qui étaient sous plastique. Une fois que vous avez enlevé le plastique et que vous remettez toutes les cartes et que vous les mettez dans leur petit compartiment, leur petit compartiment, et ben ça va naviguer. Ça va naviguer dans la boîte dès que vous la bougez. Là, vous le voyez ici, hein, ça va bouger tout de suite. Hein. Pareil pour l'école germanique, hein, c'est pareil. Pour la durée de vie du rangement en carton, je ne lui donne pas 2 mois d'espérance de vie. Vraiment pas plus de 2 mois. Parce qu'on est, très, très, voilà, on fait très attention. Et vous voyez qu'il y a déjà un pet à ce niveau-là ici. Alors que je l'ai ouverte que 2 fois. Hein. Voilà. Donc, bien évidemment, bah, vous oubliez totalement le fait de devoir mettre des sleeves hein, sur les cartes. Oubliez ça. Ou alors, vous virez le carton du thermoformage. Ben, vous virez le carton. Hein. Clairement. Hein. Parce que ça ne rentre pas. Et on a le même défaut sur les cartes, hein, mal découpées aussi. Super, hein? Sachant qu'en plus, bon, ça va, la qualité des cartes, on n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc ça, c'est pour les premières cartes. On a ensuite au milieu tout un paquet de cartes, des différents profils et PNJ, etc. Donc là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Moi, j'aime bien, hein, je trouve que c'est plutôt classe. Voilà, hop. Oui, KFR, lui, en fait, il était déjà tout défoncé, son truc. Là, ça a l'air un peu mieux découpé. Quoique la marge de gauche est plus grande que celle de droite. Hein. oui. Ah oui, bah, je vous confirme. Non, c'est mal découpé. Donc, bah, écoutez, on est super contents. Hein. Donc ça, c'est tous les profils. Voilà, tous les profils dont je vous parlais, etc. Et puis, bah, les PNJ, hein, bien sûr. Avec le côté... avec toute leur carac, etc. Donc, rien à dire. Mais effectivement, les marges, c'est pas ça. On a ensuite notre fameux tarot des ombres. Donc, essentiel pour jouer. Hein, que vous pouvez trouver dans le commerce pour 30 balles. Et c'est pas la super boîte à tarot. Hein, je veux dire, c'est une petite boîte à savon, quoi. Hein. Et voilà notre tarot. Par contre, il est super qualitatif, il n'y a rien à dire. Donc, le petit livret qui va bien. Je crois que c'est ce qu'on avait déjà dans la V1. Hein. Malgré le fait que ce soit un petit livret, bah, c'est super lisible. Donc là-dessus, bon point. Franchement, bon point. On vous explique toutes les cartes. Et voilà notre tarot qui est juste une merveille. Je ne vais pas tout vous montrer parce que voilà, on fera une chronique complète avec un vrai feuilletage, etc. Mais c'est Loïc Musy aux illustrations, donc ça déchire. Donc vraiment, les cartes sont splendides. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Voilà le dos. Après, voilà, c'est pareil. Si vous vous amusez à stiver les cartes, ben non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça, ça ne rentrera pas. Je vous préviens à l'avance. Hein. Ça rentre vraiment ric-rac. Vous pouvez trouver le tarot tout seul pour 30 balles. ce qui pour des tirages plus petits est tout à fait honnête en termes de prix, hein, pour le coup. Parce que, sincèrement, vous avez besoin de quoi ? Des deux bouquins, le tarot, l'écran à la limite, et ça suffit pour jouer. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. Et ensuite, il y avait des jetons. Voilà, les jetons. Parce que c'est bien d'avoir des jetons qui, pour le coup, sont bien. Mais alors, attention quand vous les découpez. Hein, parce que pour certains, quand on les découpe, bah, y a l'image qui part avec. Nous, on n'a pas eu ce souci, heureusement. Parce que là, je pense que j'aurais renvoyé la boîte en disant « c'est bon, remboursé ». Mais voilà, faites attention, soyez précautionneux quand vous défaites quand vous dépunchez vos petits jetons. Mais le problème, c'est que, eh ben, on n'a pas de sachet avec. Il n'y a pas du tout de sachet avec pour les ranger. Il n'y a pas de prévu là-dedans quelque chose pour ranger nos jetons. Et je vous rappelle quand même que cette petite boîte qui s'appelle le nécessaire coûte la bagatelle de 100 balles. Donc vous comprenez que je suis particulièrement énervé sur le rapport qualité-prix de la chose, parce que c'est clairement du foutage de gueule. Hein. Maintenant, après, comme je vous disais, c'est uniquement sur la forme que je vous fais cette mini-chronique. Le fond, je ne peux pas pour l'instant en discuter, parce que faut potasser les bouquins, faut voir par rapport au matos comment ça se met en place, etc. Donc, tout ça s'analyse, je ne vais pas vous faire ça en 2 minutes, alors que je n'ai même pas lu les bouquins, ça serait un peu crasseux quand même de ma part. Hein. Mais en tout cas, sur le matériel lui-même, par rapport au prix, c'est hyper abusé. Pour la boîte. Je précise bien uniquement pour ça. Parce que on vous vend une collector, en promettant monts et merveilles, etc. Et qu'on te vend ça. Non, mais arrêtez les gens. Arrêtez tout, quoi. S'il vous plaît. Ne faites pas ça, quoi. Non, c'est. Non, là, franchement, c'est abusé. Donc, du coup, nous, on a mis tous les petits jetons dans le fond pour pouvoir mettre le carton qui va bien. Voilà. Et que je puisse tout ranger correctement. Comme je vous disais, ça rentre juste. Vous voyez, ça, c'est bon, ça bouge plus. Mais comme les petites cartes, elles sont bombées quand vous allez vous en servir et tout, ça va méchamment bouger dans la boîte. Voilà, hop. Je range tout, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Oui, j'ai oublié de faire ça pour que le tarot rentre dedans. Donc voilà, un petit peu notre ami le nécessaire. Et vous, maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on était... un petit peu remonté sur les dames du cardinal sur cette boîte-là, en fait. Hein. C'est vraiment la déception pour ça. En termes de... J'insiste lourdement, parce que je ne veux pas... Je le redis aussi à nouveau, je ne veux pas qu'on m'accuse de critiquer un jeu alors que je ne l'ai pas lu, que je n'ai pas joué, etc. Ce qui serait un peu dommageable. C'est vraiment le rapport qualité-prix de la boîte par rapport à la qualité du matos qui me gêne profondément. Et franchement, je ne peux pas vous dire de lâcher 100 balles là-dessus. C'est pas possible. C'est pas possible par rapport au prix. Prenez votre tarot à côté parce que pour le coup, il est magnifique le tarot. J'en ai vu beaucoup des tarots, hein, très qualitatifs, mais ouais, il se place dans les vraiment classe, quoi. Puis surtout, il va beaucoup servir. Voilà. Maintenant, le nécessaire, à moins d'être collectionneur, d'être un fan absolu des dames du cardinal, et c'est pour ça que ça s'est super bien vendu d'ailleurs. Hein. Et dans ce cas-là, vous serez aux anges, mais du mauvais carton avec des trucs mal découpés et pas bien pelliculé, ouais, non, je suis pas content. Je suis pas content sur ça. Voilà, écoutez, je tenais vraiment à vous faire ce petit débat, surtout pour nos archives, parce que là, c'est là où je suis le plus à fond. Voilà. Et les lames du cardinal, parce que franchement, pour le coup, voilà, j'enlève le... Je vous le remets le truc. Si j'enlève notre ami... Hop là, voilà, c'est mieux. Si j'enlève notre ami, vous avez deux super bouquins, quoi. Franchement, il est propre, carré, un écran qui est magnifique et tout. Oui, les polices un peu petites, mais c'est pas Chroniques oubliées galactiques non plus, ni Genesis, hein, donc c'est parfaitement lisible. Donc franchement, ça, nickel, hein. Il n'y a rien à dire, hein. Peut-être regretter un peu le format, mais ça, c'est le mode vieux con qui a l'habitude du format A4. Donc c'est vrai que quand il réfléchit, c'est peut-être... Pour un bouquin qui fait... Alors attendez, les bouquins font quand même 254 pages pour l'univers, pour le jeu. Et pour l'univers, je crois que c'est à peu près pareil. Hein. 254 aussi. Voilà. Donc vous avez quand même plus de 500 pages sur deux bouquins. Donc ça va, quoi. On est sur quelque chose, on ne se fout pas trop de votre gueule, même pas du tout d'ailleurs. Donc je suis vraiment curieux de voir le système, l'évolution du système. Je pense que ça va être ça le plus intéressant, au-delà de l'aspect forme. Parce qu'on peut râler sur plein de trucs. Il y a plein de bouquins sur lesquels j'ai râlé sur la forme aussi. Hein. Ce qui est normal quand tu investis un peu d'argent. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus maintenant, c'est de voir comment ça tourne, quelles sont les évolutions par rapport à la V1. Parce que la V1, ce que j'ai compris, et c'est pour ça que je prends beaucoup, beaucoup de pincettes, parce qu'il y a des gens qui l'ont poncé et tout, qui connaissent le système, qui te disent que voilà, c'était super, ils se sont éclatés avec, mais le système, il était un petit peu pété. Est-ce que ça a bien évolué? Est-ce que c'est jouable, entre guillemets? Donc ça, on demandera surtout à Antoine, parce que lui, il a vraiment bien pensé le jeu. Donc voilà, on va faire la chronique en prenant notre temps. Moi, en plus, voilà, vous avez compris sur cette vidéo-là, j'ai parlé de la forme, je n'en remettrai pas une couche aussi longue qu'aujourd'hui. J'en parlerai en 2 minutes à la chronique, parce que c'est pas la peine, une fois qu'on l'a fait, ça suffit, quoi. Maintenant, on va parler du fond, ce qui est le plus intéressant. Et puis, on vous recommandera ce qu'il faut réellement pour jouer de façon efficace avec les lames du cardinal. Voilà, c'est le plus intéressant, de toute façon. Plutôt que de dire « salaud !» Voilà, alors je vois... Oui, il y a de quoi être remonté. Oui, bah oui, parce que je rappelle quand même que tout ça, là, c'est 240 euros. Hein. Voilà. Alors, c'est pas dans ton tempérament, têtu, je suis pas la cible, j'aime pas les jeux de cartes dans les jeux de rôle. Bon, moi, j'aime bien. J'avais testé Tilestel, dont je vous reparlerai un de ces jours, pour le système de combat qui marche avec du deck building. Et j'ai trouvé excellent, parce que ça prend des mécaniques de jeux de société. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas le jeu de cartes que tu utilises en gadget, etc. Non, non. C'est tu te fabriques un deck de cartes et tu fais péter tes cartes pour accélérer le rythme du combat. Je trouvais ça très malin, pour le coup. Voilà. Bon, mais ça dépend des jeux, ça dépend du game design qu'il y a derrière, hein. C'est toujours pareil. Hein. Tu peux mettre du jeu de cartes, mais si c'est pas pensé, bah, voilà. Oui, t'adores le 17e et 18e siècle. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est pas des périodes qui sont souvent exploitées, malheureusement. Ça commence avec la Renaissance, avec le Da Vinci Punk, comme on appelle ça. Mais voilà, il y a des choses qui vont se faire, quoi. Voilà, c'était le petit live à l'arrache du jour. Je vais peut-être aller manger quand même. Hein. Ça peut être pas mal. Hein. Je commence à crever la dalle. j'espère que ça vous a plu. Et puis, de toute façon, comme je vous disais, on fera une communication. Donc, vous aurez la rediff de l'hebdo sur YouTube dans l'après-midi ou fin d'après-midi. Ça, déjà, ce sera fait. Vous avez déjà eu le podcast ce matin pour ceux qui partaient au boulot. Ça, je l'avais dit, 7h30, poup, c'était en ligne. Vous aurez aussi demain une carte blanche biblio avec Mathieu. Alors, la boîte d'initiation, je ne l'ai pas, Talgaliel. Je ne l'ai pas pris parce que quand tu pêches 240 balles et qu'on te dit « Tiens, au fait, on a débloqué une boîte d'initiation alors qui reprend en fait plus ou moins tout ce que tu vois ici, sauf un scénario à part. Et si tu le veux, il faut que tu raques en plus. » Tu ne l'as même pas en PDF offert, si tu veux. Hein. Non, non, tu repasses à la caisse pour la boîte qu'ils appellent, je ne sais même plus quel nom, mais découverte, je crois. Et 50 balles, quoi. Non. Bah non. Non, on n'allait pas remettre 50 balles, plus les frais de port à nouveau. Ouais, non. Bon, après, ceux qui l'ont en parleront, c'est pas mon cas. Voilà. Mon début de lundi soir vient de se remplir aussi. Oui. Effectivement. Écoute, on se retrouve, comme j'ai dit, jeudi soir à 8h, avec Stéphane Arnier, donc, qui est un écrivain. Et un auteur de jeux de rôle. Donc, on va parler de ses romans et puis un petit peu de ses participations. Donc, Trégor et Toan, principalement, puis plein d'autres. Donc, on va le cuisiner avec Mathieu pendant quelques temps. Et puis, on verra si on a le temps de placer un autre truc. Dimanche, c'est le spécial film de Hong Kong. Hein. Et puis, on verra si on peut placer vendredi ou lundi une petite interview en plus. Ça, on verra. Voilà le programme. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'être venu assister à ce petit truc à l'arrache. Vraiment truc improvisé n'importe comment. Et puis je vous fais plein de poutous et puis je vous dis à très bientôt si je retrouve la petite vidéo pour faire au revoir. Voilà, c'est ça. Salut, salut !